Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Comment faire exister l'opposition? Comment faire exister l'opposition médiatiquement? Par exemple, peut-être en créant un média intitulé Le Média auquel vous participez, Aude Lancelin, bonjour. Mm-hmm. Vous serez donc l'une des figures du lancement du Média et peut-être pourriez-vous nous présenter justement en quoi va consister Le Média?
Le Média, c'est un lieu qui naît d'un constat assez terrible sur l'état de la presse et de la télévision française, à savoir qu'il n'y a plus de lieu pour la parole intellectuelle et politique réellement de gauche. Les conditions de la pluralité ne sont plus respectées. Et donc nous entendons être cette espèce de plateforme collaborative où toutes les gauches pourront se parler, pourront réfléchir ensemble pour construire en effet une opposition au monde en train de se mettre en place.
Bon, parce que des paroles intellectuelles, on en a par exemple sur France Culture.
Bien sûr, bien entendu, mais si vous voulez, très souvent, et je suis bien placée pour le savoir, vous êtes invité sur France Culture au milieu de trois autres adversaires. Généralement, d'ailleurs, l'animateur se joint à eux.
Faire circuler la parole.
Oui, mais si vous voulez, il y a un climat dans ces lieux-là, il y a une apparence de neutralité idéologique qui ne correspond pas à la réalité, si vous voulez. Moi, je veux bien que...
Parce que pour vous, c'est une fausse neutralité?
Oui, c'est-à-dire que moi, j'entendais votre reportage tout à l'heure sur Le Média et il était absolument question, toutes les deux phrases de La France Insoumise. Donc je veux bien qu'on se pose des questions.
Effectivement, en tout cas, nous on se représente Le Média comme étant l'organe de La France Insoumise. Peut-être que l'on sera détrompé lorsqu'on le verra, mais aujourd'hui c'est ce que l'on se dit.
Non, je vous arrête aussitôt. Le Média n'est pas l'organe de La France Insoumise. Je vous rappelle que la pétition en faveur de la création du Média a été signée par des personnalités aussi diverses qu'Aurélie Filippetti, que Arnaud Montebourg, que Philippe Poutou, qu'Eva Jolie, que Noël Mamère qui rejoint la rédaction. Noël Mamère, je vous le rappelle, est un proche de génération de Benoît Hamon et il ne compte aucunement se mettre, pas plus que moi, au service d'un parti et devenir la voix de son maître.
Bon,
et ce ne sera pas le cas.
On pourra juger à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous paraît est le plus critiquable dans le traitement que l'on voit aujourd'hui dans les médias audiovisuels en France, Aude Lancelin?
L'absence de diversité, l'absence de respect justement de l'opposition, les biais idéologiques, on a tous...
Justement sur les biais idéologiques, qu'est-ce qui vous paraît par exemple le plus évident en matière de biais idéologiques?
Je pense qu'on peut au moins se mettre d'accord sur d'un point de vue économique sur la promotion effrénée du néolibéralisme, même dans les émissions de services publics, quand un politique est interrogé, invité, qu'il est systématiquement confronté aux oukases de Monsieur Langlais,
sur une chaîne ou sur une émission.
Non, écoutez, prenons un autre exemple alors, si vous voulez, prenons l'exemple de France Inter, prenons l'exemple de Monsieur Seux qui dit la messe économique tous les matins sur France Inter depuis des années. Vous ne pouvez pas me dire que la pluralité est respectée. Pourquoi est-ce que de temps en temps on n'invite pas un économiste atterré?
Ici on en invite en tout cas très souvent des
économistes
atterrés.
Pourquoi est-ce qu'on ne les invite pas même de façon paritaire par rapport à cette vision de l'économie répandue par ces éditorialistes comme Monsieur Seux? Vous savez très bien que la pluralité intellectuelle n'est pas respectée dans ce pays, dans les médias.
Moi je vois en tout cas ce que l'on fait sur France Culture. Je trouve que c'est équilibré. Alors c'est parfois aussi compliqué d'avoir les invités que l'on veut avoir. Et il y a aussi une frange des intellectuels de gauche ou d'extrême gauche. Vous voyez, par exemple, Serge Halimi, j'ai essayé plusieurs fois de l'inviter. Il est le bienvenu à chaque fois on obtient une fin de non-recevoir. Parmi les personnes que l'on a sur un plateau, il y a aussi les gens que l'on peut avoir parce qu'ils acceptent de venir. Et bien souvent, ces gens-là n'acceptent pas de venir, ce qui est aussi un problème, Aude Lancelin.
Bien souvent, là, vous parlez d'un cas très spécifique qui est quand même la mouvance du monde en diplomatie.
Disons que c'est lui auquel je pense, parce que je lui ai lancé souvent des invitations.
Il se trouve que Serge Halimi, qui est un des meilleurs journalistes de ce pays, est un disciple de Pierre Bourdieu, qu'il a fait un certain nombre de constats extrêmement sévères sur les médias, qui justifie le fait que, selon lui, la parole n'est plus possible dans des lieux comme ça, précisément parce qu'on ne vous laisse pas vraiment s'exprimer. En réalité, on ne vous donne qu'un strapontin de temps à autre pour venir vous faire assommer publiquement. C'est plutôt ça, en ce moment, à quoi est réduite l'opposition intellectuelle dans les médias. Moi, je partage ce constat, mais par contre, je ne partage pas avec lui les moyens d'y remédier. Je pense, au contraire, qu'il faut se battre, descendre dans l'arène, qu'il faut se battre, et y compris descendre dans l'arène, mais aussi, justement, créer des médias. Si vous voulez, moi, mon constat, et c'est la raison pour laquelle je rejoins le média, en dépit des questions que moi aussi je me suis posées. Évidemment, il n'est pas question pour moi de devenir le porte-parole d'un parti, d'un mouvement, quel qu'il soit. C'est insupportable. Je n'ai pas traversé tout ça pour venir me faire remettre un collier d'esclaves. Mais si vous voulez, mon constat, je pense, rejoint celui des fondateurs du Média, qui ont une autre histoire, qui ont traversé la campagne présidentielle et ont fait le constat que tant que les médias seraient ainsi verrouillés, bloqués, rien ne pourrait se passer. Mon constat, c'est qu'il faut vraiment reconstruire les libertés la liberté éditoriale ailleurs. Mon constat, c'est notre constat commun, c'est celui qu'a fait par exemple Pablo Iglesias, le fondateur de la chaîne de télévision La Tuerca, avant même le mouvement des places, avant qu'il devienne connu. Si les médias ne viennent pas à toi, deviens le média.
Mais alors pourtant, lorsque l'on entend les critiques qui sont adressées à Radio France, il y a eu notamment une pétition dans Causeur qui expliquait que Radio France était beaucoup trop à gauche, que tous les journalistes étaient de parti pris, et vous n'avez pas l'impression qu'on est pris en quelque sorte entre le marteau et l'enclume, mais c'est peut-être cela qui prouve que, à Radio France en tout cas, on est neutre.
Alors, Guillaume Herner, vous citez Causeur, mais vous connaissez bien là aussi le biais idéologique de ce mensuel, très à droite, pour ne pas dire davantage, financé par l'ancien patron de Minute. Donc évidemment, pour ces gens-là, c'est un point que j'aborde dans le livre que je sors cette semaine, La pensée en otage. On construit le mythe d'une appartenance idéologique des journalistes à la gauche. Moi, je démontre dans ce livre que c'est un leurre. C'est un des leurres, d'ailleurs, qui sert au système à se verrouiller. C'est un leurre parce que, en réalité, les positions sociétales, mollement pro-migrants, pro-gays, féministes, ne nuisent en rien aux actionnaires de la presse et des chaînes de télévision actuelles. Et au contraire, cela permet d'entretenir le mythe d'une opposition loyale, démocratique, combative que seraient les journalistes. Or, les journalistes ne sont plus ça aujourd'hui.
Ne sont pas des opinions consensuelles. On peut en penser ce que l'on veut. Effectivement, la lutte en faveur des migrants, vous dites en faveur donc du mariage pour tous, toutes ces positions-là ne sont pas des positions qui ont recueilli un assentiment complet dans le pays.
Vous avez absolument raison. Du reste, ce sont des combats que je partage. Là n'est pas la question. Mais encore une fois, malheureusement, l'essentiel du combat se joue sur les positions économiques. Et là, on nous fait croire dans ce pays et la droite, l'extrême droite même que vous citiez à l'instant, est un peu l'idiote utile des milieux d'affaires dans cette histoire. On nous fait croire que les journalistes sont massivement de gauche. Or, c'est faux, bien souvent.
À chaque fois qu'on fait des sondages, c'est ce que l'on voit, en tout cas.
Mais quelle gauche ? Quelle gauche ?
Peut-être pas assez à gauche pour vous, mais...
Non, mais quelle gauche ?
Est-ce que vous... Je ne sais pas.
Mais écoutez-moi, je vous le dis massivement, la corporation journalistique a voté Emmanuel Macron en 2017. Et je suis sûre que vous ne me démentirez pas sur ce point. Vous le savez très bien. Est-ce que c'est la gauche ?
Au premier ou au deuxième tour ?
Au premier tour. Est-ce que c'est la gauche ? Est-ce que c'est la gauche, Emmanuel Macron ? Dans un premier temps, c'est vrai, il a commencé par dire qu'il était socialiste. Et puis il a dit « je ne suis surtout pas socialiste ». Mais je vous laisse juger.
Moi, en tout cas, je vous pose la question. Aude Lancelin, vous dites dans La pensée en otage, effectivement, que l'une des questions qui se posent en France, c'est la question donc des actionnaires de la presse. Et effectivement, il y a aujourd'hui extrêmement peu d'organes de presse qui sont indépendants sur le plan financier. C'est peut-être la raison pour laquelle le service public constitue un îlot, quoi qu'en pensent certains, de neutralité, en tout cas une manière de pouvoir diffuser une information qui soit libre sur le plan actionnarial. En tout cas, c'est évident.
Ça devrait être le cas. Eh ben, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas parce que le public s'est calé sur les mœurs du privé. Que les mêmes animateurs passent de la Maison Ronde au groupe Lagardère, au groupe Drahi via RMC, et que les mêmes objectifs d'audience sont dans les têtes, et que le rôle de pédagogie, le rôle d'éducation populaire n'est plus assumé dans ces lieux-là. Je ne parle pas évidemment de France Culture.
Non, parce que sinon je vais être obligé de me livrer à un plaidoyer pro-domo, notamment pour l'éducation.
Essayons d'éviter nos corporatismes réciproques.
On va éviter ça, mais il y a en tout cas un point sur lequel Emmanuel Macron s'est exprimé récemment lors de ses vœux. Il a dit qu'il souhaitait faire un certain nombre de choses contre les fake news dans la pensée en otage. Vous considérez qu'il faut s'armer intellectuellement contre les médias dominants? Est-ce que, par exemple, lutter contre les fake news, ça vous paraît être une bonne méthode, Aude Lancelin?
Alors, les fake news, évidemment, sont un problème, hein. Via le rôle nouveau qu'ont pris les réseaux sociaux comme Facebook, qui sont devenus les kiosques mondiaux de l'information et qui tiennent même les organes de presse dans leurs mains économiquement. Ceci dit, je ne pense pas, contrairement à Emmanuel Macron, que ce combat-là passera par une nouvelle législation. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans sa déclaration faite lors des vœux à la presse, c'est d'une certaine façon qu'il a révélé le fait qu'une guerre de la formation était vraiment en cours dans les années à venir. Et d'une certaine façon, Emmanuel Macron sait très bien, et sait parfaitement lui-même, que son élection de 2017 doit beaucoup à la docilité d'un système médiatique entier. Et il sait très bien que l'élection de 2022 se jouera aussi sur la question des médias. Et d'une certaine façon, nous partageons son constat. C'est la raison pour laquelle nous nous lançons, nous aussi, dans la bataille de l'information.
Un sondage publié il y a une semaine environ, Aude Lancelin, estime que les Français sont à 79% complotistes. Un pourcentage qu'il faudrait vraiment déconstruire, un sondage qui pose toute une série de questions méthodologiques, c'est-à-dire, à mon avis, à prendre avec des pincettes. Mais votre réaction par rapport à ce sondage, malgré tout?
Bah écoutez, moi je suis comme vous, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Je trouve que des faits totalement hétérogènes ont été mélangés. Si vous vous posez des questions sur le meurtre de Kennedy à Dallas, vous êtes donc un complotiste. Si vous pensez que la CIA, l'État profond américain, a pu jouer un rôle dans cette affaire, vous êtes un complotiste. Ça n'est pas sérieux. À ce compte-là, oui, je suis une complotiste. Tout le monde, je pense qu'effectivement dans la rue, on peut trouver 80% de complotistes. C'est pas très difficile de monter des sondages comme ça avec des questions aussi aberrantes.
L'une des questions qui se pose, notamment lorsqu'on cherche à contrer intellectuellement les médias dominants, comme vous dites, Aude Lancelin, c'est ce qu'on appelle l'agenda médiatique. Est-ce que pour vous, il y a des thèmes qui sont surtraités, d'autres au contraire qui sont sous-traités?
Absolument. Ça, c'est un point fondamental qui sera au cœur de notre travail au sein du média, puisque nous lançons ce soir à 20h un JT avec une autre hiérarchie de l'information. Tout commence par là, en effet.
Qu'est-ce qui vous paraît, par exemple, surtraité en ce moment dans les médias?
Bah écoutez, nous en parlions tout à l'heure tous les deux. Je pense que la question de la pétition récente de ces célèbres antiféministes.
Il y a la une de Libération, par exemple, Catherine Deneuve, qui répond à la polémique. Et donc cette pétition qui a été faite pour contrer d'autres pétitions qui avaient été apportées au sujet, donc évidemment, des hashtags MeToo et Balance ton porc.
En effet, là, je trouve qu'on est vraiment dans le pur spectacle. Je pense que malheureusement, ce débat-là ne changera rien à la condition des femmes, à leur sécurité dans le métro. Je trouve qu'à la faveur de cette réaction, puis c'est une réaction au mouvement Balance ton porc, des propos totalement délirants ont été tenus. Ainsi, les femmes devraient se battre dans le métro, mettre une gifle à celui qui leur a mis la main aux fesses. Mais c'est une plaisanterie. Si vous mettez une gifle, vous vous faites insulter, vous vous faites agresser. Tout cela est totalement coupé du réel. Mais alors, cela ne sert à rien et occupe les ondes, effectivement, depuis des semaines.
Mais alors, vous incrédulez incriminer cette dernière pétition ou alors l'ensemble du mouvement qui vous paraît en quelque sorte incapable de faire véritablement changer la condition des femmes?
Non, je pense, si vous voulez, moi je pense qu'il y a un peu de vrai dans les deux camps. Je pense qu'effectivement, moi, je n'ai pas envie non plus que la France vire à la méfiance entre les sexes, au puritanisme, etc. Mais je pense qu'il y avait des choses intéressantes dans le mouvement Balance ton porc. C'est vrai que c'est vrai qu'un sexisme profond règne notamment dans les entreprises et que cette libération de la parole était un moyen, oui, de renverser l'intimidation, de renverser un peu les choses. Mais bon, évidemment, on est allé dans des excès tels que tout ça perd sa force et son caractère judicieux.
Lorsque vous considérez qu'il faut un nouveau média pour lutter contre les médias dominants. Donc, il y a la question effectivement de l'actionnariat. Il y a aussi la question de la professionnalisation du métier, le fait de savoir si journaliste c'est un métier en tant que tel ou bien s'il faut accueillir également d'autres regards sur le réel. Dans le média, vous allez mélanger, vous allez accueillir à la fois donc des journalistes professionnels et des personnes qui souhaitent devenir contributeurs. Est-ce que ça, c'est une démarche fructueuse ou bien est-ce une manière en quelque sorte de provoquer un mélange des genres, Aude Lancelin?
Alors, sachez qu'il y aura une distinction faite entre les deux types de contributions. Il y a une vraie rédaction, il y a 12 journalistes, ils ont des cartes de presse, ils ont été recrutés à LCI, ils ont été recrutés au Figaro, ils ont été recrutés au Monde Diplo, à l'Obs. Donc voilà, et puis il y aura des correspondants citoyens qui auront la possibilité de soumettre à la rédaction des propositions. Il y aura des choses formidables, il y aura certainement des déceptions, mais de toute façon, la signalétique distinguera les deux types de travaux.
Et vous serez libre y compris de critiquer Jean-Luc Mélenchon, de critiquer les propositions de la France Insoumise?
C'est indispensable à mes yeux.
Et l'on pourra donc le voir dès ce soir à 20h. Vous allez reprendre les différentes rubriques que l'on trouve dans les autres médias, du journal de 20h à d'autres formes donc de reportage, Aude Lancelin?
Alors écoutez, je ne vous cache pas que nous démarrons avec beaucoup moins de moyens que nos amis milliardaires, que Bolloré ou Patrick Drahi sur BFM. Donc il y a une partie flash info, il y a une partie reportage sur le terrain. Avec nos moyens, tout ça se construira au fil du temps.
Bolloré ou Patrick Drahi vont accepter de devenir des sociaux eux aussi.
Ils ne pourront pas. Il y a un plafond de dons. Je ne pense pas.
À quelle hauteur?
Il est à 2 700 € mensuels. Je ne pense pas que ça les intéresse, ce type d'investissement.
On en reparle aux environs de 8h20 avec le député France Insoumise Éric Coquerel, élu de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, qui vous rejoindra, Aude Lancelin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La pensée en otage, aux éditions des Liens qui libèrent.